Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi dans les studios de Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler du mandat britannique en Palestine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Je vais réfléchir.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment les Britanniques ont eu ce mandat en Palestine ?
Alors, il faut savoir qu'il y a eu une guerre mondiale.
Il paraît.
En 1914.
C'est ça.
Qui s'est terminée en 1918. Et qui, au terme de cette guerre, il y a eu évidemment des conférences sur la paix. Et ces conférences se sont déroulées au départ à Versailles. Il faut savoir que dans l'entente, ce qu'on appelait, c'est-à-dire l'alliance qui est sortie victorieuse de cette guerre, il y avait 32 États. Mmh. Et donc, il a fallu, au fond, répartir de nouveau, redessiner toutes les frontières de l'Europe, mais aussi du Proche-Orient, puisque l'Empire ottoman allait être démantelé. Ça a été un des résultats de la Première Guerre mondiale. Et la création également de nouvelles nations, de nouveaux États qui n'existaient pas avant ce conflit mondial. Et donc, au terme de ces conférences, qui sont déroulées d'abord à Versailles, mais qui ensuite se sont réparties en d'autres lieux, et d'autres traités ont dû être signés pour chacune des régions concernées, il a fallu finalement séparer les problèmes et fixer des règles. Des règles, disons, de fonctionnement. Alors, une des règles qui avait été fixée par le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, c'était ce qu'on appelle les 11 points de Wilson, qui définissaient, au fond, ce qu'était une nation, quels étaient les principes fondateurs possibles d'une nation et d'un État. Et c'était ce qu'on appelle le principe d'autodétermination, qui sert de base, aujourd'hui, ou de fondement à la création d'un État. Et au fond, n'importe quelle ethnie, peut-être même n'importe quelle tribu, n'importe quel groupe ethnie communautaire peut dire « je veux un État ». Et donc, il faut bien fixer des règles de cette autodétermination. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a besoin d'avoir une unité de langue, une unité de religion, une unité de territoire ? Et donc, tout ça est négocié au lendemain de cette Première Guerre mondiale, d'abord entre ces 32 États, avec évidemment des États qui sont plus puissants que d'autres. Mmh. Il y a les grandes puissances. Et notamment, disons, l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie, d'une certaine façon, la Russie se retrouve un petit peu en retrait, puisqu'il y a eu la révolution bolchevique, et donc la Russie ne participe pas directement à ces conférences pour la paix. Et donc, on arrive finalement à répartir, à recomposer toute l'Europe et tout le Proche-Orient. Alors, la Palestine faisait partie du territoire de l'Empire ottoman. Et donc, il a fallu décider à qui allait dominer, qui allait contrôler finalement toutes ces régions, et notamment la Palestine. Mmh. Sur la base de ce qu'on a appelé la déclaration Balfour, dont nous avons déjà parlé, les Britanniques ont demandé à obtenir un mandat sur la Palestine.
Donc ça veut dire que sur la base de la déclaration de Balfour qui promettait un foyer juif en Palestine, le mandat en Palestine a été octroyé aux Britanniques dans ce but-là.
Exactement. Alors, évidemment, il a fallu passer par une première phase qui a été la phase de démantèlement de l'Empire ottoman. Mmh. Donc l'Empire ottoman a été démantelé dans un traité qui s'appelle le traité de Sèvres. Alors toutes ces conférences se sont déroulées entre novembre 1918 et avril-mai 1920, à peu près. Et donc, des négociations avec les représentants de ce qui allait devenir la Turquie, et aussi des représentants des États limitrophes, comme par exemple la Grèce, et les grandes puissances qui étaient présentes dans toutes ces discussions, les pays des Balkans, et puis également la Russie, qui était liée, puisqu'elle avait des frontières à proximité de la Turquie. Donc on a décidé, dans ce traité de Sèvres, de deux décisions principales. La première, ça a été de délimiter ce que seraient les frontières de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, qui sont les frontières actuelles d'ailleurs, encore c'est les mêmes frontières, et donc d'un État qui serait un État turc uniquement, et de répartir les autres territoires qui faisaient partie de ce qu'on appelait l'Empire ottoman. Et donc cet Empire ottoman, à part certaines régions qui évidemment comme Chypre ou comme des parties qui sont revenues à la Grèce, etc., qui ont été donc données à ces États, qui n'existaient pas encore, Chypre n'existait pas encore, mais on a bien compris après, on l'a vu plus tard, qu'à Chypre il y avait une partie de la population qui était turque, une partie qui était grecque, et pendant très longtemps ils se sont battus jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une formule d'indépendance, mais qui s'est venue bien plus tard. Mais sur toute la région du Proche-Orient, au fond, les territoires ont été répartis entre les deux grandes puissances qui étaient la France et la Grande-Bretagne.
Alors, je ne sais pas si les auditeurs de Radio TAF comme moi avaient cette idée-là. Pour moi, le mandat britannique était là avant. Pour moi, les Britanniques ont eu le mandat et ensuite, ils ont pensé à donner un foyer juif, un foyer aux Juifs. Mais ce n'est absolument pas le cas. C'est tout à fait le contraire, en fait.
Non, c'est-à-dire que la base de discussion de cette répartition du Proche-Orient, c'était ce qu'on appelait les accords Sykes-Picot, qu'on a déjà évoqué, qui répartissait ces territoires entre la France et la Grande-Bretagne selon différents critères. Mais lorsque le mandat britannique et la notion même de mandat, on y reviendra sur ce qu'était le mandat, lorsqu'on attribue un mandat, c'est qu'il y a une mission. On est, comme tu le sais, on est mandaté pour quelque chose.
D'accord.
Et c'est pourquoi le mandat britannique s'appelle le mandat britannique sur la Palestine, tandis que le territoire qui est attribué à la France, ou que la France va contrôler, va s'appeler le protectorat. C'est-à-dire qu'il s'agit de protéger des régions sur la base de minorités existantes afin justement de pouvoir séparer ces minorités sans attribution, disons, d'une mission particulière à la France, outre le fait qu'elle doit protéger cette région et la contrôler.
Donc
le mandat britannique avait, dès le départ, une mission définie clairement, qui était la création, c'était pas précisé exactement qu'au bout de combien de temps, de créer un foyer juif.
D'accord.
En Palestine. Et la base, ou disons l'origine de ce mandat, c'est la déclaration Balfour. Alors la déclaration Balfour, est-ce qu'elle est en contradiction avec les accords Sykes-Picot, ou est-ce qu'elle est en contradiction avec les différentes promesses que les Anglais avaient faites à d'autres groupes ethniques de la région, et notamment aux Arabes qui venaient de la région d'Arabie Saoudite? Évidemment que oui. Et c'est là où va se jouer, je dirais, l'avenir de toute cette région, dans, disons, un compromis entre toutes ces promesses.
Mais à partir du moment où la mission était justement la création d'un foyer juif, est-ce que les promesses qui ont été faites aux autres ethnies, aux autres peuples, du coup, n'étaient pas moins importantes que les promesses qui avaient été faites au peuple juif ?
Alors le mandat qui a pour objectif de créer un foyer juif, c'est la mission prioritaire.
C'est ça.
C'est évident. Mais il y a, disons, une condition à l'application de cette condition prioritaire, c'est que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civiques et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine.
D'accord.
Et donc c'est sur cette condition, cette clause restrictive, disons, que les Anglais vont se fonder pour dire, au fond, on ne peut pas créer un foyer juif sur l'ensemble de la Palestine, on ne peut pas créer un foyer juif tout de suite, on ne peut pas permettre une immigration importante tout de suite. Donc c'est sur la base de cette petite restriction, de cette clause restrictive, que les Anglais vont se fonder, qui figure dans, effectivement, dans le mandat qui leur est attribué.
D'accord.
Alors, il est bien évident que le mandat, il faut définir ce que c'est qu'un mandat. Il y a plusieurs types de mandats en droit international, on ne va pas entrer dans le détail, on ne va pas faire ici un cours de droit international, d'ailleurs je suis totalement incompétent pour le faire, mais en tout cas, il y a le mandat qui est attribué à la Grande-Bretagne, ça se définit en droit international comme un mandat sui generis.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire un mandat qui doit créer quelque chose, au fond, qui doit aboutir à quelque chose. Ce mandat suppose un régime spécial, une forme légale précise, qui est que les Britanniques vont avoir pour mission de préparer une indépendance sous un mandat qu'on appelle un mandat de classe A. Alors, cela veut dire qu'au fond, un mandat de classe A, ça signifie que les Anglais n'étaient pas censés tenir compte de la composition démographique de la région. C'est-à-dire que la mission A consiste à dire il y a avant tout, le but c'est de créer un État juif, et il n'est pas question dans le mandat des Arabes qui vivent sur place.
D'accord.
Donc, un mandat de classe A, ça signifie, et c'est précisé dans les articles 2 et les articles 6, que le mandataire doit placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement, et qu'il doit faciliter et encourager l'installation des Juifs en Palestine, notamment par l'immigration. Et là, dans un autre article, la Grande-Bretagne reconnaît le mouvement sioniste sous le nom Agence juive pour Israël, pour la Palestine, comme un organisme public ayant pour objectif de conseiller, de coopérer avec l'administration britannique. Et donc, à aucun moment, dans ce mandat, il n'est précisé qu'il doit y avoir de telles institutions pour les Arabes qui résidaient à l'époque en Palestine. Donc il s'agit, la classe A, ça veut dire il y a un mandat qui est très précis et qui a pour but la création des conditions permettant la création d'un État juif. Il n'est rien mentionné concernant les Arabes palestiniens, sauf qu'on ne doit pas porter atteinte à leurs droits et à leurs libertés, etc. Alors, il est bien évident que, par exemple, par rapport à la Syrie ou au Liban, c'est tout à fait différent. Parce que cette idée, c'est que le mandat britannique lui confère des pouvoirs de législation, d'administration, sous réserve des limites qu'on a évoquées. Et donc, certaines communautés qui appartenaient à l'époque à l'Empire ottoman et qui avaient été indépendantes, ne sont pas reconnues, de ce point de vue-là.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a une différence, c'est assez technique, on peut entrer dans l'aspect technique de ce mandat britannique. Il est bien clair que la mention de la déclaration Balfour est importante ici, et que l'acceptation par les Alliés et les États-Unis du mandat britannique, c'est sur la base de la déclaration Balfour. Et ça signifie donc que la Palestine ne sera pas traitée de la même manière que la Syrie et l'Irak, mais qu'il s'agit bien d'un but précis qui est la création d'un État juif. Voilà ce qu'on peut dire, disons, pour ce qui est de la définition du mandat britannique. On reviendra après sur son application.
On va faire une petite pause, on va écouter Shlomo Arzi.
מתפללים כי איזה חג חבר למין מסע כזה בחורף מסתכל בי רגליו קצרות אבל ראשו חכם אנחנו במנוסה הכל פה זז אומר לי אתה גם אבא אתה גם בן אדם מביט מבעד לזגוגית עיניים יש לו רגישות כן כן מוזר איך האויב עזר נראה לו אנושי וגם פוחד יש לי אישה, זאת אמא שלך ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. שתי כבשים עולות עליהם הדרך, לא נדרוס אותן, אנחנו לא דורסים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, חלף בשפע זה לא אומר ניסים. שולף מצלמה של כיס, חושב שגן העדן מדויק, מכחיש שקר לו ומצלם כדי שנזכור מה שהיה. קראתי בעיתון על אחת בת מאה שכל חייה עשתה מעשים טובים. שב ילד שב, אני אומר לך שב, לא כל האנשים נולדו רעים. מזמן היא מתה די מזמן, אביך הוא ימות גם יום אחד. לא גן העדן לא קיים, אולי קיימת ארץ חדשה. יש לי אישה, זאת האמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. גשם כבר יורד וזה חורף, פעם זה הכל היה ורוב. שב ילד שב, למה להתרפק, משהו חורק בזיכרון. מביט מבעד לשלטים, עיניים יש כדי להסתכל. תגיד, שואל אותי, האם ייתנו לנו בכלל להיכנס? חברים, למין מסע כזה בחורף כבר חסר לי. אבי ישן זקן ומסתגר, איתו הלכתי דרך העיניים שכבר אין לי. עכשיו ילדי שלי איתי עולה, מביט מבעד לזגוגית, יש לנו ארץ, למה עוד אחר? בחוץ שקיעה של יום שני, בפנים אני והוא כמו איש אחד. יש לי אישה, זאת אמא שלך, ניסה ניסה אולי נגיע עד מחר. אם לא נעת, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. לא נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה. נגיע, נגיע, נגיע לארץ חדשה.
C'était Shlomo Artzi, Eretz Hadasha.
Bah oui, c'est un nouveau pays. Un nouveau pays. Bon, la chanson de Shlomo Artzi que tout le monde connaît, ce chanteur, mais voilà, elle parle d'un nouveau pays, elle raconte un peu la vie de Shlomo Artzi avec ses amours et ses hauts et ses bas, mais on est dans un nouveau pays.
Alors, les amours et ses hauts et ses bas concernant le mandat britannique.
Tout à fait. Eh bien, le mandat britannique se met en place assez lentement. Les Anglais sont présents en Palestine depuis 1917, décembre 1917, l'arrivée du général Allenby. Donc, ils ont déjà mis en place leur administration avant d'avoir le mandat, au fond. Et le mandat devait venir, au fond, entériner ce qu'ils ont déjà mis en place de façon légale, d'avoir, si vous voulez, un cadre, un cadre légal de son administration. Il y a déjà des agents britanniques sur le terrain. Il faut savoir que le Foreign Office et notamment le ministère des colonies également ont énormément d'agents dans toute la région du Proche-Orient, comme dans le système colonial bien connu des Britanniques, où ce sont des gens qui sont sur le terrain, et qu'il y a, je dirais, toute une école de pensée, que l'on connaît par Laurence d'Arabie, mais une école de pensée de gens qui sont proches, je dirais, des milieux arabes, des bédouins, de cette vie qu'ils ont un petit peu idéalisée. Et quelque part, ils ont bien compris qu'il y a une possibilité de rester dans cette région à long terme, et qu'une une des manières, une des méthodes pour rester dans la région, ça va être de diviser pour régner. Mmh. Et donc, le mandat britannique s'installe suite à une décision qui est prise à une conférence qui se déroule à San Remo, en 1920. Mais en parallèle, sur le terrain, il se passe un certain nombre de choses. Mmh. Et ça, c'est important parce que ça va, au fond, déterminer l'avenir de cette région qui va se jouer sur une période très très courte, qui va se jouer, au fond, entre de 1917 à 1922. Puisque la conférence de San Remo et le mandat britannique devra être entériné par une institution qui est créée par les conférences de la paix de Versailles, qui s'appelle la Société des Nations, qui existera jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à Genève, et qui donc est censé, selon le mécanisme mis en place au moment des conférences de la paix, qui doit entériner tous les accords signés dans ces différents, tous les traités et les accords signés dans les différentes conférences sur toutes les régions prévues dans cette nouvelle répartition du monde. Et donc la conférence de San Remo va décider de l'attribution du mandat britannique et également aussi du protectorat français sur la Syrie et le Liban. Et cet accord devra être entériné 2 ans plus tard par la Société des Nations. Sauf que en avril 1920, c'est-à-dire au moment, finalement, quelques jours avant cette conférence de San Remo, eh bien, le fameux shérif Hussein, à qui on avait promis le royaume de Damas,
à qui les Anglais,
avaient promis le royaume de Damas, et ben il va à Damas et il s'installe. Et comme les Français, selon les accords Sykes-Picot, savaient qu'il devait être là, ils envoient un corps expéditionnaire avec le général Gouraud, qui évidemment expulse tout de suite ce shérif Hussein, qui n'est pas aussi armé que l'armée française, et qui lui dit va jouer, comme on dit, et qui le renvoie à ses études. Du coup, le shérif Hussein, extrêmement déçu, vient voir les Anglais et dit « Vous n'avez pas respecté votre promesse, puisque, contrairement à ce que vous nous avez promis, vous vous êtes engagé dans les accords Sykes-Picot à laisser la région de Damas, la Syrie, l'Irak et le Liban, ou une partie de l'Irak, pas toute l'Irak, une toute partie, mais notamment la Syrie et le Liban, sous le contrôle d'un protectorat français. » Et donc, l'idée que vont avoir les Britanniques pour dédommager, pour compenser cette perte du royaume de Damas ou de la Syrie, eh bien, c'est de donner une partie du territoire qui était prévu pour le mandat britannique. Et donc, ils vont faire ça au lendemain de l'attribution du mandat britannique sur l'ensemble de la Palestine. Et donc, ça veut dire sur la partie ouest et la partie est du Jourdain. Et donc, ils vont retrancher du territoire prévu pour le mandat britannique, pratiquement les 2/3, pour créer le royaume hachémite de Transjordanie et y installer le shérif Hussein qui avait été expulsé par les Français de Syrie.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu dis qu'ils ont amputé le territoire prévu pour le mandat britannique, tu veux dire qu'ils ont amputé le territoire prévu pour les Juifs.
Oui, pour un État juif.
C'est ça. Donc là déjà, il y a 2/3 de la Palestine qui est donnée, d'accord.
Oui, donnée à ce royaume hachémite de Transjordanie. Là encore, il faut savoir que cette zone de Transjordanie, alors quand on regarde la carte, une carte un peu curieuse parce qu'elle correspond à aucune réalité géopolitique, aucune réalité ethnique, c'est un territoire qui est quasiment désert. Et cette fameuse famille hachémite, qui est encore aujourd'hui la famille qui dirige le royaume de Jordanie, parce que la Transjordanie est devenue par la suite le royaume hachémite de Jordanie. Cette Transjordanie est occupée dirigée par des Bédouins qui, à l'origine, viennent du Hijaz, c'est-à-dire la région actuelle de l'Arabie Saoudite. Et donc, il s'agit de tribus de Bédouins qui sont assez peu nombreuses et qui vont s'installer à Amman et donc créer cet État qui va devenir le royaume hachémite de Transjordanie, qui ensuite va combattre d'ailleurs le futur État sioniste. Donc on a là finalement une répartition assez cynique de la part des Anglais, qui ensuite diront qu'au fond, l'engagement de créer un foyer juif n'était pas un engagement territorial, mais était un engagement politique, et donc que de leur point de vue, il n'était pas question, n'était pas mentionné dans l'attribution du mandat, que ce foyer juif devait s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la Palestine. Mmh. Alors, il faut bien comprendre qu'une des raisons pour lesquelles la Palestine, dans le cadre du mandat britannique, avait un statut particulier, c'est aussi lié au fait qu'une partie de ce territoire est considérée comme ce qu'on appelle la Terre Sainte. Mmh. Et donc, c'est ce que disent les Anglais au moment où ils demandent d'avoir ce mandat. Il déclare, je vais lire une déclaration de ce qu'on appelle le Palestine Royal Report, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils veulent donner ce statut spécial à la Palestine. Ils disent la chose suivante: la Palestine avait un statut différent des autres provinces de l'ancien Empire ottoman parce qu'il s'agissait d'une terre sainte pour les trois religions monothéistes et en raison du lien historique du peuple juif avec cette terre. Les Arabes y avaient vécu pendant des siècles, mais ils avaient depuis longtemps cessé d'y régner. Et compte tenu de son statut particulier, il ne pouvait pas réclamer la possession de la Palestine au même titre qu'il pouvait le faire pour la Syrie ou l'Irak. Mmh. Donc les choses sont claires. Il s'agit de créer un État juif. Mmh. Donc il ne s'agissait pas de créer un État jordanien ou transjordanien à l'époque. Mais les raisons, disons, géopolitiques ont fait que les Britanniques, pour justifier cette compensation donnée à Hussein, Chérif Hussein, c'est l'opposition des Arabes au sionisme. Et donc, au moment de la conférence de Sanremo, curieusement, exactement pendant ces conférences, les jours qui précèdent et les jours où se déroule cette conférence de Sanremo, c'est-à-dire au printemps 1920, il y a des émeutes qui éclatent en Palestine, et notamment à Yafo et à Jérusalem. Il y a des morts.
Des émeutes
d'Arabes qui s'opposent au sionisme et qui s'opposent au mandat britannique et qui ne veulent pas de ce mandat.
Même après avoir eu la Transjordanie.
Absolument. Et donc, et on crée d'ailleurs ce qu'on appelle le Haut Comité musulman avec le fameux Moufti de Jérusalem.
Quand tu dis on crée,
c'est les Britanniques. Les Britanniques qui administraient déjà, qui faisaient déjà la police depuis trois ans. Ils étaient déjà présents sur le terrain depuis trois ans. Donc, ils administraient cette région, ils la contrôlaient. Et on sait aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, on a accès à des documents auxquels on n'avait pas peut-être accès avant. On sait que ce sont des agents britanniques du Foreign Office sur le terrain et des agents de l'Intelligence Service qui ont fomenté, qui ont encouragé ces émeutiers à se révolter, à s'opposer aux sionistes, justement pour donner cet argument du mandat britannique et de donner des pleins pouvoirs aux Britanniques de faire ce qu'ils veulent.
C'est-à-dire ça donne un argument aux Britanniques?
À partir du moment où les Britanniques disent « Nous sommes là comme puissance mandataire », mais il y a sur le terrain un mouvement sioniste qui souhaite s'installer et créer une société, développer un foyer juif, mais il y a également la présence d'environ un demi-million d'Arabes qui vivent en Palestine et donc qui craignent que ces Juifs vont venir leur prendre leur maison, vont venir s'installer et créer un État. Donc, ils encouragent, au fond, ces habitants de Palestine à s'opposer au sionisme en disant « c'est contraire à vos intérêts, défendez vos intérêts ».
D'accord.
Alors que, au fond, un des représentants des Arabes de Palestine avant et au cours de la Première Guerre mondiale, dans des négociations et des discussions avec les dirigeants sionistes, avait envisagé la possibilité qu'il puisse y avoir un accord et une acceptation de cette présence juive, de la création de villages juifs dont ils étaient parfois aussi également les bénéficiaires sur le terrain.
Donc à ce moment-là, c'est comme un pas en arrière de la part des Britanniques?
Non, c'est une façon d'imposer leur pouvoir sur le principe de diviser pour régner. On va avoir besoin de nous pour faire la police.
Donc on est obligé de rester.
On va être obligé d'imposer des règles assez strictes parce qu'il y a une opposition aux sionistes. C'est pas de notre faute. Il y a une opposition sur le terrain. Alors qu'en fond, ils sont liés et qu'ils encouragent cette opposition. Et ça va être la politique du mandat britannique pratiquement tout au long de son histoire, même si ici ou là, il y a également eu une opposition arabe au sionisme qui s'est développée et qui a, je dirais, qui s'est fortifiée, qui s'est renforcée tout au long du mandat britannique. Donc petit à petit, les Britanniques se sont retrouvés avec aussi bien Au début, ils ont essayé de diviser pour régner, et après, ils ont eu aussi bien les Juifs que les Arabes contre eux.
Nous allons écouter maintenant Rita avec Garam Ulayam. À tout de suite.
אני גרה מול המים, בין שדות ובין חול. מעליי השמיים וממול ים כחול. לפעמים אתה חי פה, לפעמים אתה מת. לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת. יש לילות של ירח במזרח הזה, יש ימים שצורח הכאב בחזה. אני גרה מול המים והאופק רחוק, וגבוהים השמיים והים הוא עמוק. יש ליופי פותם לקבוץ מלחמה, פה גדלים מסמי זעם בין פרחי נחמה. כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן, כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמן. אני גרה מול המים ונופים משכבר, מספרים לי בינתיים איך הפכו לאפר. כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות, כאן עושים את הסבל בתוך סל השמחות. כאן שותים את הצער שרים שירי סער בין תפילות השכבה. מעלי השמיים וממול ים
Magnifique chanson.
Oui, c'est Rita. Rita, qui est une chanteuse que tout le monde connaît, bien entendu, mais qui, là, parle de... Voilà, qu'est-ce que c'est d'habiter en face de la mer, à Tel Aviv. Alors, le mandat britannique, lorsqu'il s'installe, évidemment, il fixe une politique qui est, au fond, une politique coloniale. Pour les Britanniques, il s'agit d'une colonie. Hein. Encore une fois, la définition de mandat britannique... fixé par les conférences de la paix, notamment la conférence de San Remo, et ensuite qui devra être entérinée, donc comme je l'ai dit, par la Société des Nations. Pour eux, au fond, il s'agit d'une autre colonie, et donc ils vont appliquer leur politique coloniale en Palestine, et ils vont donc soumettre le mandat britannique à l'autorité du ministère des colonies. Je rappelle qu'à cette époque, le ministre des colonies, c'était un certain Winston Churchill, qui deviendra célèbre par la suite comme Premier ministre, mais ce ministère des colonies va fixer plusieurs règles. Et la première, ça va être, on l'a dit, de retrancher une partie de la Palestine. Et donc, au moment où le mandat britannique est entériné par la Société des Nations, la Transjordanie n'en fait déjà plus partie. Et donc, on est déjà sur 33%, même pas, du territoire prévu. Et là, dans... 1922, tout de suite après cet accord entériné par la Société des Nations, les Britanniques vont donc fixer ce qu'on va appeler un livre blanc. Il y en aura plusieurs, il y aura trois livres blancs qui vont être édités à plusieurs reprises, en 1922, en 1929 et un autre avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et ce livre blanc fixe au fond les règles de fonctionnement du mandat britannique sur le terrain, et notamment... va définir les règles de l'immigration en fixant des quotas d'immigration
concernant les Juifs.
Concernant les Juifs, curieusement, aucun quota concernant la population arabe. et donc les Arabes vont pouvoir s'installer de façon pratiquement libre, sans avoir de quota d'immigration, puisqu'ils ne sont pas concernés par le mandat. Le mandat ne les concerne pas. Le mandat, c'est la création d'un foyer juif. Donc eux ne sont pas concernés, et on va d'ailleurs constater, et on le sait aujourd'hui historiquement, lorsqu'on regarde les chiffres, on sait que la population palestinienne d'Arabes de Palestine a augmenté beaucoup plus que la population juive pendant cette période.
Mais quel est le but des Anglais à ce moment-là ?
Le but des Anglais, c'est de retarder au maximum la création de ce foyer juif. Parce que tant qu'ils sont présents dans la région et qu'ils ont ce contrôle, eh bien, ils contrôlent la région, à la fois dans des visées impérialistes, politiques, géopolitiques, coloniales. Et donc, pour eux, l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible. Mmh. Et pour rester le plus longtemps possible, il faut qu'ils aient une certaine opposition sur le terrain. Il faut qu'ils soient, je dirais, nécessaires.
Et il ne faut pas que l'État ou que le foyer juif soit créé.
Donc, dès le départ, ils disent, et c'est une phrase qui va énormément choquer le mouvement sioniste, une des premières phrases du livre blanc de 1922 de Winston Churchill dit « La Palestine en entier devrait être convertie en un foyer national juif, mais qu'un tel... » Donc il n'est pas dit que la Palestine en entier devrait être convertie en un foyer juif, mais qu'un tel foyer juif devrait être fondé en Palestine. Autrement dit, ils inversent l'équation, à savoir, il ne s'agit pas de créer un État juif sur l'ensemble de la Palestine, mais il s'agit sur l'ensemble de la Palestine de créer un foyer juif.
D'où les quotas et d'où la possibilité d'avoir un tout petit foyer juif.
Voilà, donc on limite ce foyer juif à des frontières qui probablement seront beaucoup plus petites que celles du mandat, et donc qui leur permet d'une certaine façon d'offrir l'indépendance aux Arabes dans des territoires qui sont situés à l'est du Jourdain. Mmh. Alors, évidemment, l'interdiction de l'immigration ou la limitation de cette immigration, c'est dans le but de retarder la création d'un État juif sous l'argument un peu fallacieux de la capacité d'accueil, en disant il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de capacité d'accueil, donc on ne peut pas, il y a une opposition sur le terrain, donc on ne peut pas aujourd'hui laisser librement cette immigration. Et ils vont appliquer cette politique de façon extrêmement dure, ce qui va d'un autre côté encourager du côté du mouvement sioniste une immigration illégale.
D'accord.
Et donc il y a un mouvement d'immigration clandestine qui va se créer en parallèle de l'immigration légale, puisqu'on ne peut pas obtenir des certificats et qu'ils mettent des conditions assez drastiques sur les certificats, notamment sur les familles, pas les enfants. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'articles qui sont situés et qui se trouvent dans dans ces livres blancs et qui limitent la capacité du mouvement sioniste d'obtenir ces certificats. Alors évidemment, il faut passer par l'agent juif, il va falloir être extrêmement, je dirais, rusé de la part de l'agent juif pour contourner toutes ces règles. Cela dit, au long du mandat, c'est-à-dire de la fin de la Première Guerre mondiale, disons depuis 1917 du point de vue de la Palestine, jusqu'en 1947, la population juive va malgré tout passer de 85 000 à 650 000. Mmh. Mais une grande partie de cette population sera arrivée de manière illégale par des bateaux et également par voie terrestre.
D'accord.
Donc l'ensemble des dispositions du mandat entrent officiellement en vigueur après avoir été entériné par la Société des Nations, donc officiellement uniquement en septembre 1923.
Mmh.
Et donc ça veut dire que le livre blanc a déjà été publié.
D'accord.
Ça veut dire que la Transjordanie a déjà été créée et donc retranchée du territoire prévu pour le mandat britannique. Donc au moment où le mandat entre en vigueur, il y a déjà un certain nombre de faits accomplis qui limitent énormément l'activité du mouvement sioniste. Et donc les sionistes comprennent déjà qu'ils vont avoir affaire à une politique hostile de la part des Britanniques. Alors au sein du mouvement sioniste, il y a aussi des divergences sur la façon d'agir. Pourquoi ? Parce que, malgré tout, le mouvement sioniste a des amis. Et donc notamment le premier haut-commissaire britannique, qui était le premier haut-commissaire du mandat britannique, qui était un juif, qui s'appelait Herbert Samuel, qui a sa rue également sur le long de la Taillelette, la promenade, la fameuse promenade Herbert Samuel, qui lui était un ami du peuple juif et qui était juif par lui-même et surtout un ému mouvement sioniste et qui donc, au départ, a essayé de ne pas trop gêner l'activité du mouvement sioniste et a même encouragé. Cela dit, il a été rapidement remplacé justement parce qu'il était considéré par Londres comme étant beaucoup trop proche du mouvement sioniste. Alors, dans le mouvement sioniste, il y a des gens qui pensent que nous avons malgré tout des amis à Londres. Et donc, dans le gouvernement britannique, si aujourd'hui un ministre des colonies comme Churchill, qui était hostile à l'époque au, disons, développement du mouvement sioniste, après il a un petit peu changé d'avis, mais malgré tout, il y a peut-être possibilité d'infléchir cette politique britannique de, sur le terrain, d'obtenir peut-être un des allègements de ces livres blancs et de la politique sur le terrain. Voilà. Et d'autres, en revanche, au sein du mouvement sioniste, comprennent notamment ce qu'on pourrait appeler l'aile droite du mouvement sioniste, qu'on a appelé les révisionnistes, et notamment Jabotinsky, comprennent dès cette période que les Britanniques, au lieu d'être un allié dans la création d'un État juif futur, vont devenir petit à petit un obstacle. Et il y aura évidemment toute une négociation avec le mouvement sioniste. Parce que comme l'agence juive est reconnue, et l'organisation sioniste mondiale sont reconnues comme les partenaires pour l'application de ce mandat britannique, les Anglais exigent du mouvement sioniste qu'il signe les livres blancs et qu'ils en acceptent les conditions.
Il n'y a pas moyen de négocier ces livres blancs ?
Alors ils essayent, notamment Chaim Weizmann, mais malgré tout, il est obligé, notamment, de signer dans le cadre de ce premier livre blanc qu'il est d'accord, parce que sinon, lui craint que le mouvement sioniste soit encore plus sanctionné, et donc il accepte, au fond, que la Transjordanie soit retranchée. Et là, il y aura d'énormes critiques, notamment de la part de cette opposition de droite au sein du mouvement sioniste et de Jabotinsky, qui dit aucun juif n'a le droit de renoncer à une parcelle d'Eretz Israël. Et là, les Anglais exigent. Weizmann est pris, au fond, d'un espèce de chantage, parce qu'il craint que le mouvement sioniste soit encore plus pénalisé s'il rejette les clauses du livre blanc. S'il rejette le livre blanc, ça peut entraîner un revirement total de la politique britannique, c'est tout au moins ce qu'il pense, et donc il essaye d'améliorer un petit peu les conditions sur le terrain, de trouver des arrangements, mais malheureusement, il se trouve finalement pris sous une forme de chantage.
Nous allons maintenant écouter Ephrat Gauche, à tout de suite.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם הכרתי טיפותיו של הגשם נקבות בתוכי יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי הכבידה עליי ורציתי לעלות גבוה לראות את האור לראות את האור אומרים השמיים כחולים מעלינו מלאים באורות אולי יום אחד אוכל גם אני לראות עצמתי עיניי, אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל פתידותי ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור
C'était Frat Gauche, Lirot et Aor.
Ah oui, voir la lumière. Et donc les Juifs ont commencé à s'inquiéter au début du mandat britannique parce que certains sionistes ont compris que cet allié britannique qui avait, s'était installé avec l'aide du mouvement sioniste, avec le soutien du mouvement sioniste, et quand on espérait qu'il serait nos amis, nos alliés, petit à petit était en train de devenir une puissance occupante et non pas une puissance mandataire. Et je dirais la conception a évolué au sein du Yishuv, de la société juive en Palestine, sur la relation avec les Britanniques, parce qu'on s'est rendu compte que finalement l'application du mandat a été de plus en plus difficile, que chaque livre blanc était encore plus dragonien que les précédents, et qu'ils empêchaient l'immigration, et qu'à chaque fois qu'il y avait des oppositions, aussi bien des manifestations que des manifestations ou des émeutes, et donc ils ramenaient plus de soldats, et donc ils ne se comportaient plus comme une puissance mandataire, mais comme une puissance occupante, et ils ne considéraient plus ce mandat comme, disons, une préparation à la création d'un État juif, mais tout simplement comme une colonie britannique. Et donc les populations sur place s'opposaient, et l'opposition arabe et l'opposition juive n'a cessé de croître tout au long de la période du mandat britannique. Les Britanniques ont essayé d'appliquer des règles qui étaient à la fois des règles coloniales extrêmement dures, et d'un autre côté c'était un pays démocratique, la Grande-Bretagne. Donc quelque part il y avait une espèce de contradiction entre cet État qui se voulait un grand État démocratique d'un côté, et d'un autre côté, une politique coloniale extrêmement violente, extrêmement, je dirais, extrêmement méprisante à l'égard de ce que considéraient comme des autochtones, c'est-à-dire comme des sous-hommes, au fond. Il faut lire les rapports des officiers britanniques sur le terrain et sur la façon dont ils parlent aussi bien déjà des Arabes que des Juifs, les traitant pratiquement comme des sous-hommes. Alors, il y a eu des exceptions. Il y a eu des officiers britanniques qui ont été proches du mouvement sioniste, et notamment quelqu'un dont on aura l'occasion de parler, qui s'appelait Wingate, et qui a formé une grande partie des officiers de la future Haganah.
D'accord.
Et qui donc a été peut-être quelqu'un qui a permis à ceux qui par la suite sont devenus de grands généraux, comme par exemple Moshe Dayan, d'aide de grands soldats, parce qu'il avait une grande expérience militaire, et il a créé des centres de formation et d'autodéfense pour les Juifs. Et c'était un officier britannique dont on a gardé ici un grand souvenir. Et d'ailleurs, il y a en Israël un séminaire de formation de maîtres, de professeurs de gymnastique et de sport qui porte son nom.
D'accord.
L'Institut Wingate, très, très, très connu.
Absolument.
Alors, ce pouvoir britannique, finalement... il y a une dégradation tout au long de la période du mandat britannique, une dégradation des relations entre le mouvement sioniste et le pouvoir britannique, et également avec les Arabes. On reparlera évidemment des événements qui ont marqué toute cette période, mais ce qui est important de constater, c'est qu'il n'y a pas eu tout au long de cette période de véritable réflexion sur quel pouvait être l'avenir d'une région qui était finalement animée par des soulèvements populaires. Et donc on n'a pas vu monter l'antisémitisme en Europe, on n'a pas fait le lien, par exemple, entre la montée de l'antisémitisme en Europe et le mouvement sioniste, en tout cas je parle du point de vue des Britanniques, alors que le mouvement sioniste avait déjà vu qu'il fallait aussi sauver des Juifs. Ça a été très clair au moment de la montée du nazisme en 1933, et donc il y a eu une alia qui est arrivée, et les Britanniques ont tout fait pour empêcher cette
Pourquoi
alia.
Parce qu'ils ne voyaient pas cette menace, ou parce qu'ils s'en foutaient?
Non, parce que tout simplement, ils considéraient que c'était contraire à leurs intérêts, et leurs intérêts coloniaux. Et donc, cette présence juive sur place n'était pas quelque chose qui allait de pair avec les intérêts coloniaux britanniques. Alors, l'administration britannique, évidemment, elle a des aspects assez intéressants, c'est-à-dire qu'ils ont fixé des règles juridiques qui sont actuellement encore en vigueur. Mmh. Il y a beaucoup de lois qui sont encore en Israël des lois mandataires, c'est-à-dire que le cadre juridique utilisé jusqu'aujourd'hui en Israël est un cadre anglo-saxon, qui est fondé sur le droit anglais. Et donc, ils ont également fixé des règles du cadastre, beaucoup de répartitions des parcelles, des terrains existants sur toute la terre d'Israël ont été fixées par le mandat britannique. Ils ont créé un certain nombre de, je dirais, d'institutions, de bâtiments qui existent encore aujourd'hui et qui ont servi de, je dirais, dont les installations ont encore servi par la suite pour l'État d'Israël pendant très longtemps. Certaines bases militaires, certains QG ou états-majors de la police, par exemple, sont encore des bâtiments britanniques. Et donc, une partie, je dirais, de ce système de fonctionnement de l'administration britannique a continué à perdurer même après le mandat britannique. Donc, ils ont créé ce cadre juridique. Ils venaient après un empire ottoman dont les règles de fonctionnement, c'était plutôt la corruption et le bakchiche, etc. Donc, ils ont instauré un certain nombre de règles. Règles policières, règles administratives, règles juridiques. Et ce cadre qu'ils ont fixé s'est maintenu bien au-delà de leur présence. Donc on peut, évidemment, le mandat britannique s'est opposé au sionisme. Et donc il y a eu à un moment une guerre civile qui a opposé, une guerre de libération nationale qui a opposé les mouvements de résistance aux Anglais directement. Et là aussi, au sein du mentionniste, il y avait des divergences. Est-ce qu'il fallait uniquement s'opposer politiquement au mandat ou une opposition qui pouvait être une opposition violente, une opposition militaire, une forme de résistance. Donc là-dessus, le mouvement sioniste également a divergé. Mais les Anglais ont instauré un certain nombre de cadres de vie dans cette région. Et ces cadres de vie se sont en partie maintenus au-delà de leur présence. Là, c'est important à comprendre ça parce que parfois, on a un peu de mal à comprendre comment ce mandat britannique a eu finalement une influence sur la vie des citoyens israéliens, au-delà même de la présence. Alors, pendant la période de ce mandat britannique, c'était un petit peu curieux, puisqu'il y avait des institutions juives qui se sont créées avec l'aide des Britanniques. Et donc, les Britanniques, par exemple, les certificats d'émigration étaient délivrés par l'agence juive, selon le quota fixé par le Livre blanc. Donc, c'est la raison pour laquelle ils voulaient obtenir l'accord de l'agence juive sur une politique à laquelle l'agence juive était opposée. Mais ils n'ont pas empêché, par exemple, la création de grandes institutions en Israël. Par exemple, l'université hébraïque, d'autres grandes institutions qui se sont créées, l'école des beaux-arts, les théâtres. Donc, sur un certain nombre d'aspects, le mandat britannique n'était pas opposé au développement d'une culture, n'était pas opposé au développement de certaines institutions qui, par la suite, ont été à la base, je dirais, du nouvel État d'Israël. Donc, il y a, encore une fois, politiquement, le mandat britannique a eu une politique négative par rapport au projet sioniste, mais sur le terrain, dans le cadre de la construction d'une société, tout n'était pas négatif. Ils instauraient un ordre qui était l'ordre qu'une administration britannique pouvait instaurer. Donc, il y a des façons de fonctionner. Par exemple, pendant très longtemps, les grades de la police, de l'armée, tout ça était sur le modèle de l'armée britannique ou de la police britannique. Après, ce sont des choses qui ont évolué avec l'État d'Israël, bien entendu. Et puis, bon, les choses évoluent de façon naturelle. Mais on sait que, finalement, le mandat britannique n'a pas eu une opposition systématique au sionisme, en tout cas pas dans ses aspects culturels, spirituel, uniquement sur des aspects, je dirais, politiques. Bon, c'est évidemment grave, ce revirement de la politique britannique, mais c'est un revirement qui peut aussi s'expliquer dans les relations internationales par rapport aux autres grandes puissances.
C'est juste grave que ce soit passé au pire moment pour l'histoire. Enfin,
bien sûr, bien sûr. Mais on ne peut pas, encore une fois, accuser les Anglais de cela. À certains moments, les Anglais ont une politique. On ne peut pas dire que les Anglais ne sont pas opposés aux nazis. Et donc, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il est bien évident que les Juifs se sont retrouvés face à un dilemme, puisqu'une grande partie d'entre eux se sont engagés dans l'armée britannique pour combattre le nazisme. Et donc, c'est ce que disait Ben Gurion, il faut combattre le Livre blanc comme si le nazisme n'existe pas, il faut combattre le nazisme comme si les livres blancs n'existaient pas. Mais, évidemment, c'était un petit peu contradictoire, cette politique britannique qui, d'un côté, demandait aux Juifs de les aider à combattre les nazis, et se sont appuyés aussi sur le Yishuv pour combattre les nazis, et d'un autre côté, d'empêcher l'émigration des Juifs. Et on sait qu'à certains moments, il y a eu des bateaux qui ont quitté l'Europe avec des réfugiés, et qu'on les a empêchés de s'installer en Palestine. Alors, à certains moments, les Britanniques ont essayé de proposer d'autres solutions pour aller dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, mais, bien évidemment, c'était un calcul cynique, et les Anglais voulaient, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, gagner la guerre, et le sionisme était quelque chose qui était devenu tout à fait secondaire. Ils se sont retrouvés face au problème. À la fin du mandat britannique, a été assez dramatique, puisqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que les Anglais n'ont pas su comprendre les leçons de la Deuxième Guerre mondiale et la nécessité d'un État juif, notamment pour les réfugiés des camps. Ça a été une politique assez non seulement rude, mais incomprise. Les camps, notamment à Chypre, de réfugiés, Exodus, tous ces épisodes que l'on connaît aujourd'hui, avec une politique britannique qui était totalement incompréhensible et qui a fini par se retourner contre eux, sans compter le fait qu'ils ont été finalement expulsés de la terre d'Israël, ce qui ne leur était pas arrivé dans beaucoup de colonies, mais petit à petit, ça a été aussi une des parties une des phases du déclin de l'Empire britannique. Et je crois que s'il y a une leçon à tirer de ce mandat britannique, c'est justement sur la façon dont c'est un peu un modèle du déclin de l'Empire britannique colonial. Quelque part, les Anglais se sont comportés et avec les sionistes comme ils se comportaient en Afrique ou comme ils se comportaient dans d'autres pays d'Extrême-Orient, et leur relation avec les peuples, comme on dirait aujourd'hui, indigènes, a été extrêmement contraire aux valeurs de ce pays.
Merci Michael. Donc aujourd'hui nous avons évoqué la nature du mandat britannique, son rôle politique, administratif et juridique. Et dans une prochaine émission, nous parlerons des événements qui ont marqué ce mandat britannique.
Voilà, toute cette période-là est intéressante justement à cause des événements qui se sont déroulés, dont on reparlera.
Ben merci beaucoup Michael. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Leitrat.
היום נעשה משהו בלתי נשכח שישיר זיכרון של שמחה מבורך היום יש לך יד ללטף את ראשך היום אגרום לך סוף סוף לחייך היום אגרש את העצב מעינייך אעשה את היום למאושר בחייך היום תשמעי מה שעוד לא שמעת אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט היום אבא שלך משהו טעים אעשה את הכל שיהיה לך נעים נכון לא תמיד אני מראה אהבה אבל היום